Hashtag un autre regard sur le handicap.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Et pour cet épisode du mois de décembre, nous allons évoquer Andy Bloom, la première fondation Made in Lozère, une fondation lancée fin octobre dernier avec pour objectif de financer des projets en faveur des enfants malades et ou en situation de handicap. Comme d'habitude, avec moi pour co-animer cette émission, Anne Clémence, directrice de la communication du Clos du Nid, partenaire de 48FM. Bonjour Anne.
Bonjour et bonjour à tous.
Pour nous accompagner et nous informer sur ce Andy Bloom, nous avons quatre invités, notamment Vincent Bardou, directeur général de l'A2LFS et donc de la fondation Andy Bloom. Bonjour à vous.
Bonjour.
Également autour de la table, Sylvie Breuil, vous êtes directrice de plusieurs associations en charge des différents établissements médico-sociaux, dont notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui pour cette émission, l'établissement des enfants et adolescents polyhandicapés, le EAP Déjeuner, qui se trouve à Châteauneuf de Randon. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Et puis, toujours en lien avec les jeunets, Aline Morin, monitrice éducatrice, et Bernard Rodier, jeune stagiaire, on l'a dit tout à l'heure, en Master 2 à Kedge Marseille, et en charge du pilotage d'un partenariat dont vous parlera dans une seconde partie d'émission. Vous travaillez donc également dans cet établissement. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Eh bien, donc, pour lancer cette discussion sur la fondation Andy Bloom et d'un premier projet qu'elle finance, je me tourne vers vous, Vincent Bardou. Le secteur du médico-social et du handicap sont des sujets majeurs en Lozère. Et déjà, plein de choses existent dans ce secteur. Alors, première question, pourquoi avoir créé une fondation dédiée au handicap ?
Mais l'idée de cette fondation, elle est venue du fait que malgré tous les financements que l'on peut avoir, les aides diverses et variées, il nous a semblé intéressant de pouvoir susciter d'une part des arrivées d'argent, des dons par un public qui ne vient pas nous financer parce qu'il n'est pas là pour ça, et du coup de pouvoir avoir une autonomie plus grande puisque dans nos associations, les financements que nous avons font que nous avons en fait une délégation de service public, mais donc l'argent qui nous est donné est déjà fléché sur des actions préétablies. Or là, ici, l'idée, c'est de justement avoir un outil qui nous permettent, dans la mesure, évidemment, où nous récoltons des dons, parce que malgré tout, l'argent est un petit peu le nerf de la guerre, mais à partir du moment où nous avons des dons, d'avoir là, pour le coup, une plus grande liberté sur cette utilisation. Et donc, avec cette liberté étant posée, l'idée, c'est de pouvoir financer des projets qui, sans cela, n'auraient pas ou ne pourront pas voir le jour, parce que les ciblages financiers font que ce sont des actions qui n'auraient pas eu leur place dans le système, on va dire, normé du financement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment se donner cette liberté-là, avec aussi une idée de proximité de territoire avec les Lozériens et ce territoire.
Et puis moi, je rajouterais juste aussi que 2025, ça a été une grande année pour la 2LFS, puisque nous avons fêté les 100 ans de l'association. D'ailleurs, 48FM s'est fait l'écho de certains des événements qui ont ponctué l'année de cet anniversaire. Et la création de la fondation, c'était aussi un petit peu prolonger l'histoire, je dirais presque. Hein, la 2LFS est toujours une association qui se développe, qui continue à avancer, qui continue à vivre, qui continue à se développer. Et la fondation est encore une prolongation et une continuité, une continuation de ce que l'on peut encore faire pour aller encore toujours un petit peu plus loin. Donc les 100 ans ont été aussi le déclencheur de tout ça aussi. Voilà.
Oui, les 100 ans, c'était l'occasion de marquer symboliquement aussi cette année, donc avec le lancement de cette fondation. Mais ça fait longtemps que vous aviez en tête la création d'une fondation justement pour avoir un nouvel outil de financement.
D'une manière générale, l'idée, c'est de continuer à avoir des actions innovante, alors au moins innovante sur le territoire. Et donc l'idée d'une fondation est apparue relativement rapidement. Et en fait, en commençant à travailler sur le sujet, on a eu la surprise de s'apercevoir qu'en fait, il n'y avait pas d'autres fondations sur le territoire lozérien. Donc ce côté innovant sur le territoire, au moins, apparaissait de façon évidente. Parce que cette notion d'innovation, je pense, mais je ne suis pas le seul, hein, l'ensemble, on va dire, des opérateurs du médico-social, au moins associatif, sont convaincus qu'effectivement, l'innovation est, si ce n'est le seul moteur, en tout cas un moteur important pour la pérennité de nos activités. Voilà. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire, voilà, comme on est en Lozère, ce qu'on fait est bien, il faut qu'on puisse dire, certes, on est en Lozère, donc on a une histoire, on a des personnes qui, avant nous, ont fait des choses. On est là pour continuer à construire ces outils autour de l'accueil des personnes vivant avec un handicap. Et donc, l'innovation est aujourd'hui un peu un moteur ou un outil pour nous permettre de continuer à exister. Et donc, la fondation, c'est imposée de cette manière. Voilà.
Sylvie Breuil, je vous vois acquiescer de la tête dans le studio. Justement, avant, on reviendra plus tard sur spécifiquement le projet dont on va parler tout à l'heure sur les jeunets. Mais votre regard de professionnel du secteur médico-social, comment vous avez vu justement l'arrivée de cette fondation? Vous l'avez vu d'un bon œil et pourquoi pour vous justement ce côté investissement est important aussi en Lozère?
Je partage complètement ce que Vincent Bardoux vient d'évoquer concernant notre activité médico-sociale en Lozère et sur le besoin et la nécessité de travailler sur des projets innovants pour effectivement s'assurer de la pérennisation de notre activité. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire en Lozère qu'on fait des choses bien et qu'on est les meilleurs, mais ça ne suffit pas de le dire. Il faut vraiment nourrir cette recherche de l'innovation pour améliorer et optimiser le fonctionnement de nos établissements et donc l'accompagnement des personnes en situation de handicap. L'arrivée de la fondation Andy Bloom, c'est pour nous, association en Lozère, une véritable opportunité. C'est la première fondation qui se met en place en Lozère et donc pour nous un premier vrai partenaire avec qui on est heureux d'envisager travailler pour soutenir les projets justement innovants qu'on travaille dans nos établissements.
Et donc, justement, on va revenir sur quel secteur travaille la Fondation. Il me semble que vous avez fléché cinq grandes branches, en tout cas d'action. Moi, je les ai notées. Accessibilité et autonomie, recherche et innovation technologique, on va y revenir. Confort et indépendance, activité physique et inclusion sociale. Et également, soutien aux familles et aux aidants. Pourquoi ces cinq activités, en tout cas actions de terrain? Et voilà, c'est un petit mot sur ces cinq activités.
Disons que déjà, en énumérant ces cinq items, on couvre, quasiment tout ce qu'il est possible de faire. Hein. Et effectivement, on l'a découpé de cette manière-là. D'abord pour donner de la visibilité à la fois aux opérateurs qui auraient des projets pour bien s'y retrouver, mais aussi pour être clair vis-à-vis des futurs ou des éventuels donateurs, d'être assez précis sur les différentes actions. Et donc, il nous a semblé que c'était important. Alors, évidemment, l'accessibilité, l'autonomie, pour venir en aide à des personnes vivant avec un handicap, évidemment, ça paraissait un point évident. On a fait l'innovation et la recherche, parce qu'il nous a semblé que, et on en parlera sans doute tout à l'heure, puisque c'est un des premiers projets qu'on souhaite pouvoir financer, mais ce côté participer sur des innovations technologiques et suivre ou permettre l'adaptation d'innovations technologiques dédiées à d'autres domaines, ça nous apparaît aussi extrêmement important. Confort et indépendance, là aussi toujours cette idée de permettre à des jeunes enfants ou adolescents de pouvoir développer et grandir avec cette indépendance et dans le confort le meilleur, évidemment. Sur les activités physiques, là, c'est vraiment l'ADN de la 2LFS qui ressort, puisque historiquement, notre association a toujours porté un regard intéressé, je vais dire, sur la pratique sportive et la pratique sportive adaptée. Alors, historiquement, ça a été innovant il y a déjà plusieurs dizaines d'années sur première rencontre sportive de personnes handicapées, et plus récemment avec la construction sur Montrodin d'un complexe euroméditerranéen dédié au sport, et notamment au sport et handisport, et qui d'ailleurs a été était centre de préparation pour les Jeux paralympiques, ce qui nous a permis d'accueillir un certain nombre de délégations pour préparer ces Jeux. Et donc, voilà, on a vraiment cet ADN. Donc, évidemment, ce point est un point qui nous tient particulièrement à cœur. Et aussi, dernier point qu'on a souhaité mettre en avant, évidemment, si on parle des enfants, il y a les aidants et leurs familles. Et donc, on a aussi un certain nombre de projets sur l'organisation, la mise en place de ces jours pour les aidants, et notamment sur le site de Montrodin, mais pas que. Voilà. Donc, c'était vraiment, avec ces axes-là, c'est très en lien avec, d'une part, l'histoire de notre association, avec les valeurs qu'on peut porter, et ça nous permet, tout en étant clair, me semble-t-il, de couvrir à peu près l'ensemble des projets qui peuvent émerger sur notre territoire.
On reviendra sur la fin de l'émission à nouveau de votre volonté d'inclure les Lozériens dans ce financement et dans votre recherche de mécénat, mais on va quand même parler du premier projet dont vous aimeriez financer la construction et la faisabilité, et justement pour ça qu'on va un peu donc discuter déjeuner, et donc qui m'explique un peu voilà comment quel est ce projet, comment il est né, et on parlait tout à l'heure de Andy Bloom qui recherche à travailler sur l'innovation technologique, l'accessibilité, l'autonomie. Là c'est quasiment un peu un projet témoin qui rassemble toutes les volontés d'Andy Bloom, voilà, qui veut se lancer pour parler de ce projet qui pourrait être financé ici en Lozère.
Ce projet que nous déployons depuis bientôt 2 ans au sein de l'association Les Genêts est né de plusieurs événements, plusieurs initiatives. Je regarde mes collègues qui sont autour de la table. On a eu l'occasion il y a 2 ans de faire une première formation ensemble au niveau de la Lozère entre direction des établissements médico-sociaux sur l'intelligence artificielle. Et cette première opportunité nous avait vraiment donné une occasion pour échanger et réfléchir à des projets innovants à travailler autour de l'intelligence artificielle, compte tenu de la place et des enjeux de l'intelligence artificielle dans la société.
Ça avait été un déclic, c'est vrai. Ouais.
Un vrai déclic. Et puis l'émulation autour de cette formation, ça avait donné naissance à beaucoup d'idées,
tout à fait.
Beaucoup de projets. En tout cas, c'était plein de petites graines qui avaient été semées à cette occasion. Et au-delà de cette première journée de formation, c'est vrai que sur cette période-là, on avait eu l'occasion de participer à de nombreux événements, à la fois au niveau de la région, avec la FEAP qui avait organisé une journée de sensibilisation sur l'intelligence artificielle, qui avait fait intervenir des professionnels de l'école TBS de Toulouse, qui avait été donc l'occasion de rencontrer un de nos premiers partenaires pour avancer sur ce projet. Et on a vu aussi en Lozère l'occasion de faire des assises du handicap sur l'intelligence artificielle. C'était il y a 2 ans maintenant. Elles avaient été organisées sur...
À Langogne. C'était les assises qui avaient été organisées à Langogne, par le conseil départemental, oui, en effet.
Le conseil départemental qui, depuis 3 ans maintenant, s'engage vraiment sur le déploiement d'assises du handicap, répétées tous les ans. Et c'est vrai que cette année-là, c'était sur l'intelligence artificielle. Donc, ça avait été à chaque fois des occasions de réfléchir et de mûrir un projet innovant autour de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'au sein de l'association Les Genêts, on accompagne des enfants et des adolescents en situation de polyhandicap. Et beaucoup d'enfants sont en situation de troubles neurodéveloppementaux avec ce qu'on appelle l'autisme ou le spectre de l'autisme. Ces pathologies et ces situations de handicap génèrent des troubles du comportement qui préoccupent beaucoup les professionnels. Ça les mobilise beaucoup, en tout cas. Notre objectif, c'est de chercher des solutions pour réduire et atténuer ces troubles du comportement. Parce qu'à chaque fois qu'on réduit les troubles du comportement d'un jeune en situation de handicap, eh bien, on optimise son temps de concentration sur du développement personnel, du développement éducatif. Et ça occasionne à chaque fois du temps supplémentaire accordé aux équipes pour accompagner les jeunes, y compris sur la démarche inclusive. Un jeune qui s'apaise au niveau des troubles du comportement, c'est un jeune qui peut davantage sortir sur l'extérieur et bien vivre ses moments d'inclusion sur l'extérieur.
Et donc, cette volonté depuis 2 ans, c'est de développer un outil technologique qui pourrait justement apaiser les troubles du spectre autistique de ces personnes-là. Voilà, expliquer un peu qui vous avez contacté, quelle école, et dans une volonté, voilà, dans comment le projet pourrait aboutir d'ici quelques mois, quelques années.
Alors, le projet, il n'a pas pour but en lui-même de réduire les troubles du comportement, il a pour but d'identifier les sources et l'origine des troubles du comportement, parce que dans l'autisme, l'aspect sensoriel est très important. On sait que les stimuli, que ce soit auditif, que ce soit la lumière, que ce soit le bruit, tous ces stimuli peuvent arriver à un certain niveau, être la source déclencheuse d'un trouble du comportement. Donc nous, on cherche à travailler avec l'intelligence artificielle pour identifier l'origine de ces troubles du comportement, pour les identifier et ensuite travailler sur ces sources de stimuli pour les réduire et donc indirectement réduire les troubles du comportement.
Et donc peut-être je me tourne vers vous, Aline Morin, vous êtes professionnelle, vous êtes quotidiennement au contact de ces jeunes-là. Justement, voilà, vous avez aussi vous identifié qu'il y avait parfois peut-être des éléments que... Enfin, ma question, c'est en quoi peut-être l'intelligence artificielle qui est en train de se développer pourrait vous aider, pour vous aider dans votre métier au quotidien ?
Juste, je veux rappeler qu'aujourd'hui, le public, en tout cas, que nous, on accueille, c'est un public non-verbal. C'est-à-dire que c'est un public qui n'est pas en capacité de dire, eh ben, en fait, il fait trop chaud, il fait trop froid, j'ai faim, j'ai mal, même que d'exprimer ça, ils ne sont pas en capacité. Et donc, aujourd'hui, l'IA a permis, en tout cas en interne, de générer un document que nous, on a appelé une grille d'observation comportementale. Et au travers de cette grille, justement, on a pu définir plusieurs facteurs qui pourraient être déclenchants des troubles du comportement. Donc il y a effectivement le côté sensoriel, il y a le côté somatique aussi. Le résident, il n'est pas capable de dire « j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête », donc ça peut être un facteur déclenchant. Et le troisième facteur, c'est le quotidien, le collectif, effectivement. Est-ce que le trouble, il apparaît pendant une activité? Est-ce qu'il y a eu un imprévu qui a fait ressurgir ce trouble-là? Et justement, cette grille, aujourd'hui, elle permet de mieux cibler les facteurs. Ça permet de prendre du recul sur la situation et justement de permettre de mieux appréhender et de mieux comprendre en fait d'où vient le trouble du comportement.
C'est de la prévention en fait, pardon. Oui. C'est un outil de prévention, c'est prévenir, c'est quels sont les éléments de l'environnement de la personne en situation de handicap qui font qu'une crise pourrait se déclencher. Donc en fait, vous êtes sur des outils de prévention pour éviter le déclenchement des crises.
Tout à fait, si je peux me permettre. Voilà. Donc en fait, on est vraiment dans un projet innovant, puisqu'on utilise l'IA au service de l'enfant. Comme vous disiez, donc l'IA en fait utilise des modules prédictifs pour justement tracer, enfin essayer de détecter la survenue d'une crise pour à la fois alerter les professionnels d'une part et in fine ce qu'on souhaite, c'est utiliser la domotique pour adapter l'unité de vie, quoi, adapter l'environnement.
Oui, c'est ça, parce que ça pourra être... Et du coup, matériellement, ça va se matérialiser comment, en fait? Il va y avoir des capteurs, des caméras, très concrètement, même si on n'y est pas, je sais qu'on n'y est pas encore, puisque on est vraiment sur les phases avant, mais quoi que ça ne va pas tarder.
Mais ça ne va pas tarder,
voilà,
oui,
c'est ça.
Parce qu'on s'est rapproché à nouveau de l'école des mines d'Alès pour travailler avec eux sur l'installation de capteurs sensoriels. Donc, on en a identifié quelques-uns. On ne veut pas en installer trop d'un seul coup, mais au moins trois premiers capteurs sensoriels au sein d'une unité de vie, avec à l'appui une équipe de 3 futurs ingénieurs qui seront amenés à travailler et à traiter les données enregistrées.
L'idée, une fois qu'on a ces données traitées, c'est de faire un asservissement pour adapter le lieu de vie, voilà, pour que l'enfant puisse être dans un environnement vraiment adapté à son profil.
Voilà, parce que du coup, pour chaque profil, vous allez pouvoir détecter un tel, c'est le trop de luminosité qui déclenche la crise, un autre, c'est le trop de bruit, un autre, autre chose, peut-être le groupe ou une activité, hein, vous parlez d'activité, et en fonction, voilà, vous, le détecteur, et comment ça, il y aura une sorte de QG, vous imaginez quoi, un petit, les capteurs vont envoyer des infos après à un QG qui va dire, hop là, attention, rouge, lumière est trop forte pour Julien, ou, comment ça va se passer?
Il va y avoir deux sources d'analyse et de travail via l'IA. La première source, ça va être le traitement des données enregistrées par les professionnels, hein, sur le logiciel, hein, de la personne accompagnée, donc c'est le logiciel soin, le document unique, hein, de l'usager. Les grilles d'analyse comportementale qui ont été présentées par Aline sont aujourd'hui sur le logiciel Livia. Donc, les professionnels renseignent ce questionnaire à chaque fois que survient un trouble du comportement. L'IA, elle, va être chargée de traiter toutes ces données pour identifier tous les
événements récurrents.
Qui se produisent et qui vont permettre de faire émerger un aspect sensoriel plus qu'un autre, hein, qui vient expliquer le trouble du comportement. La deuxième source d'analyse, via l'IA aussi, ça sera via les capteurs qui viendront affiner l'analyse de l'origine et de l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura identifié que c'est la lumière, par exemple, l'exposition à la lumière qui génère le trouble du comportement, le capteur sensoriel viendra déterminer quel est le seuil de tolérance à la lumière qui fera qu'on tolère ou tolère pas la luminosité. Et derrière, il y aura effectivement ce mini QG qui viendra prendre l'ensemble de ces données et qui viendra commander la domotique pour dire « Attention, il ne faut pas que la lumière atteigne tel seuil. » Donc, on s'arrangera pour que la domotique, en fonction de la lumière extérieure, en fonction des éclairages, s'adapte au seuil toléré par le jeune.
Mmh. Et pour créer justement toute cette base de données qui permet après ensuite travailler, concrètement, ça s'est passé comment? On est venu vous voir, vous, Aline, qui est donc monitrice éducatrice, vous êtes toujours au contact de ces jeunes. Ce sont les ingénieurs ou les futurs ingénieurs de l'école des mines ou de leur TBS de Toulouse qui sont venus vous voir et vous demander, voilà, concrètement, comment ça se passe avec un tel.
Voilà, tout à fait. Il s'est monté en interne un groupe de travail. Donc, nous étions plusieurs professionnels. Effectivement, il nous a été présenté un premier jet, une première grille, sur laquelle on a pu, nous, émettre aussi un peu plus de détails, parce que nous, on connaît le public avec lequel on travaille et qu'on accompagne au quotidien depuis maintenant plus de 15 ans. Et effectivement, il manquait des éléments. Et c'est vrai que autant nous, on peut déterminer, oui, ben, en fait, il y a le côté somatique, oui, il y a un imprévu du quotidien, mais c'est vrai que pour nous, c'est difficile aujourd'hui de détecter le côté sensoriel. On n'a pas la même appréhension du... Voilà, dans cette pièce, eh bien, on est plusieurs personnes, il y en a certains qui ont froid, d'autres qui ont chaud. Donc pour nous, c'est très difficile d'identifier cette partie-là. D'où aussi l'IA qui va bien, justement venir renforcer ce côté-là, en fait, que nous, on peut... Parce que ce n'est pas palpable pour nous, quoi, en fait.
Et il faut se mettre aussi dans la configuration de l'organisation d'une journée au sein d'une unité de vie sur le EAP Les Genêts. Ce sont 10 jeunes de 8 à 18 ans qui présentent les uns et les autres des troubles du comportement. Et pour les accompagner, nous avons deux éducateurs. Donc on peut imaginer aussi le quotidien pour les deux éducateurs en charge de 10 jeunes avec des troubles du comportement. Et donc les limites de la capacité... pour deux éducateurs à observer l'environnement immédiat à chaque fois que survient un trouble de comportement pour l'un d'entre eux. Donc l'objectif vraiment de ce projet, c'est de soulager les équipes d'une analyse très précise de l'environnement pour leur permettre de eux se concentrer sur les moments où les enfants sont plus apaisés, pour leur proposer dans ces moments-là des actions éducatives et des sorties.
Monsieur Bardou, justement, pour avoir la voix d'Andy Blum, là, quand on présente le projet, on parle donc de recherche et innovation technologie, soutien aux aidants, plus de confort. C'est vraiment un projet qui cochait toutes les cases pour vraiment représenter ce que Andy Blum peut financer.
Tout à fait. Et en plus, on parle de l'IA et c'est pas parce que c'est pas un gadget. En fait, c'est pas parce que c'est à la mode ou portable. C'est qu'effectivement, là, il se trouve que, et ça rentre tout à fait dans l'idée qu'on avait au départ de type de projet qu'on souhaitait pouvoir financer et dynamiser. C'est-à-dire que là, on est bien sur un outil qui n'est pas destiné initialement à ce type de profil ou à cette utilisation. Et donc, on est bien à se dire, si on arrive à utiliser ces innovations technologiques au service des personnes vivant avec un handicap, et bien là, vraiment, on est dans le cœur de ce qu'on souhaite faire avec cette fondation. Donc vraiment, pour premier projet, je trouve que c'était vraiment quelque chose de vraiment parfait, dans le sens où ça répond très, très, très concrètement à l'idée qu'on se faisait du type de projet qu'on voulait financer. Mais quand je dis ça, alors, on est sur des projets, alors là, pour le coup, très technologiques, qui peuvent apparaître au grand public ou à tout le monde très techniques, compliquées. Mais à côté de ça, on souhaite pouvoir aussi venir en aide sur des choses beaucoup plus simples, basiques. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des cinq objectifs que nous avions, les principes d'action. Et donc, on veut réussir à pouvoir, je dirais, un peu jongler entre des choses très technologiquement parlant, enfin, très performantes, très précises, techniques, et à côté des choses qui peuvent être beaucoup plus faciles à monter et avec une compréhension, une accessibilité plus simple. Donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, de séjour de rupture pour les aidants, c'est des choses très simples. On veut réussir à jouer sur ces différences.
Vous écoutez Hashtag sur 48FM, tout de suite une pause musicale.
Will call and see experimenting, and I guess there's just no other way. I've been drawn to a new escape, 'cause I'm wearing bamboo and I'm picking up zoots. I've slipped away. Now I'm tonguing on a rizzle. And your sassy snow's a deal for us. Oh, a danger's got me wrapped up round its thumb, but it's no trap 'cause I'm in love. I said I'm in love. I said I'm. Knocking on my door since I was 17. Oh, and you saw but you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on cracks. Oh, no, there's no time to fall. How you go? Won't ever know. So mother, may I sleep with danger, please? It's been knocking on my door since I was 17. Oh, oh, and you saw. But now it's more than a wish, it's a dream.
Toujours sur 48FM avec Hashtag l'émission qui parle avec et pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la fondation lausérienne Andy Blum et à l'un des projets qu'elle aimerait financer, de l'intelligence artificielle et de la domotique au service des enfants polyhandicapés déjeuner. Bernard Rodier, on vous a un peu entendu tout à l'heure, mais pour revenir à ce projet, vous, justement... Alors, première question, quel est votre rôle? Et après, qu'est-ce qui vous plaît justement dans le pilotage de ce projet au Genêt?
Alors, le rôle déjà, donc moi, c'est d'accompagner les professionnels dans cette démarche et puis de me servir de mon expérience passée en tant qu'ingénieur, puisque j'ai travaillé dans l'industrie pendant plus de 30 ans et que la technique me plaît et que j'ai trouvé le sujet très intéressant. Lorsqu'on a discuté avec Madame Breuil, j'ai trouvé l'idée très belle. Et moi, je suis en reconversion professionnelle depuis 2 ans. Je suis passé de l'industrie au médico-social. J'ai fait accompagnant éducatif et social, un petit peu comme fait ma collègue. Et puis, j'ai souhaité continuer. Et puis, je pense que ce stage va me permettre d'aider pas mal quoi, dans le processus, dans la gestion du projet. Et là, l'idée, si vous voulez, dans les mois à venir, c'est de générer de la donnée, puisque l'IA exige d'avoir de la donnée et de la donnée de qualité. Donc l'idée, c'est de mettre en place les outils auprès des professionnels pour qu'ils puissent utiliser un langage commun et bien identifiable par l'IA. Quoi. Voilà.
C'est la data, c'est le cœur du réacteur. En fait. Plus il y aura de data, plus il y aura de données.
Absolument.
Plus les actions et la réaction pour être précise au niveau de ces capteurs. Et
plus l'analyse, en tout cas.
L'analyse,
donner,
voilà.
Le résultat sera pertinent.
Donc l'idée, si vous voulez, à partir du début de l'année prochaine, c'est de faire les profils des enfants, en tout cas les cas qu'on va étudier, d'identifier l'unité de vie qui est adaptée, je dirais, à la situation qu'on veut développer. Et puis donc faire les profils sensoriels et profils de comportement, puis les intégrer dans la base de données qu'on utilise aujourd'hui, voilà.
Et l'autre aspect...
Les professionnels puissent s'approprier ce sujet-là aussi, c'est très important.
L'autre aspect des missions de Bernard Rodier, un peu moins glamour certes, hein, c'est aussi d'aller rechercher, identifier des sources de financement. Parce que c'est un projet qui est aussi coûteux. Hein. Dès qu'on aborde la question de la technologie, hein, de l'IA et de la domotique, eh bien oui, il y a des frais conséquents qui ne sont pas du tout prévus hein, dans le cadre du fonctionnement de nos établissements. Donc là aujourd'hui, d'être autour d'une table avec la fondation Andy Blum hein, qui propose de nous apporter un soutien, c'est une véritable opportunité et on est très reconnaissant en tout cas de la fondation Andy Blum qui propose de nous accompagner sur ce projet. Je fais un appel, clairement, on recherche des subventions pour aller jusqu'au bout de ce projet. Vous m'avez posé la question de la temporalité tout à l'heure. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. On sait que c'est un projet qui va encore être travaillé sur plusieurs années. La question du temps est importante dans ces projets, y compris pour accompagner les équipes, mais aussi les familles des personnes accompagnées, parce qu'on a aussi cette relation aux familles qui est importante. Ça pose quand même des questions aussi éthiques vis-à-vis de la technologie dans l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Donc il faut vraiment qu'on prenne le temps.
Et justement, sur le volet éthique, mais même tout simplement un peu révolutionnaire de l'IA, quand vous êtes allé voir les professionnels qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap, est-ce qu'il y en a qui ont été plutôt réticents, on leur a dit ça va pas servir à grand chose, moi en tant qu'humain je connais mieux mon métier, voilà, quand une technologie arrive comme ça, il peut toujours avoir des gens un peu plus prudents.
Alors vous avez raison, ça fait partie aussi de mon rôle de rassurer les gens et d'expliquer avec clarté comment on va suivre ce projet, comment on va l'intégrer. Et puis c'est un projet qui est en co-construction, hein, donc les gens participent, hein, on a mis en place des groupes de travail et les professionnels vont être autonomes sur ce travail-là. Donc on va mettre en place une commission d'éthique aussi pour travailler sur ce sujet d'IA. C'est un sujet qui est quand même assez récent, hein, donc on n'a pas trop de retours d'expérience au niveau médico-social sur cet aspect-là. Donc on va innover une fois de plus sur cette commission d'éthique et je pense que... on va faire de belles choses. Voilà. Je fais appel aux dons aussi. Si vous laisserez mon numéro de téléphone à la fin de l'émission, ce sera avec grand plaisir. Et sachez que ce projet va être traité avec grand professionnalisme et qu'il a un intérêt pour les enfants qui est majeur. Voilà.
Vous, Aline, justement, je pose la question de comment, la première fois qu'il y a peut-être justement 2 ans, on est venu vous voir pour vous parler de ce projet-là. Voilà, l'IA générative, tous ces mots-là, ça sonnait un peu barbare dans votre tête, ou justement, vous disiez, oui, pourquoi pas, allons-y.
En toute honnêteté, non, je pouvais pas voir que la technologie aujourd'hui pouvait, en tout cas, avoir un impact sur notre pratique. On travaille d'humain à humain. Et que des robots, que de la technologie puissent intervenir dans cette relation-là, ça pouvait pas. Enfin, on ne pouvait pas imaginer, quoi. Aujourd'hui, il y a de la robotique, mais il y aura quand même toujours l'humain derrière. Voilà, on sera quand même toujours présent auprès des résidents, on sera toujours là pour les accompagner. Et effectivement, l'IA, ça va juste être un outil, un support, justement, sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour mieux comprendre ces troubles du comportement. Mais ça ne remplacera jamais lui-même.
Voilà. Bon, vous sentez, donc vous percevez maintenant que ça peut être un plus et un apport réel dans votre métier.
Oui, parce que effectivement, ça a mis en lumière que, hormis le somatique, le collectif, il peut y avoir d'autres facteurs. Comme on a dit tout à l'heure, tout le côté sensoriel. Et comme je disais, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas identifier au quotidien. Et justement, des fois, comme je disais, c'est un public qui est non-verbal. Donc, en fait, mon travail, il est basé sur de l'observation et beaucoup d'interprétations. Et justement, le fait d'avoir des données, de se dire, eh bien, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit, eh bien, en fait, ça va venir cibler et peut-être mieux appréhender le trouble. Voilà, on ne sera plus dans de l'interprétation, on sera sur du concret.
Ce projet qui mêle... c'est ma question d'après. Mais notre question sur comment vous êtes allé chercher... en plus, ça reste plus ou moins local. En tout cas, on reste en Occitanie. Et l'école des mines d'Alès et l'école TBS Éducation de Toulouse. Voilà, comment vous êtes allé les chercher? Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans ce projet-là? J'imagine que c'est aussi du gagnant-gagnant pour eux.
Ça a vraiment été du gagnant-gagnant. Le directeur adjoint de l'école des mines a vraiment été touché par la recherche de développer un projet technologique dans le secteur médico-social. C'est vrai qu'un ingénieur, école des mines, est amené à travailler sur de gros projets très techniques et très technologiques. Demander et proposer à des élèves, futurs ingénieurs, de venir dans le médico-social pour travailler sur des projets innovant en matière de technologie, ça a été pour eux aussi une première démarche et innovante pour eux. Autant pour nous, ça a été une première de nous ouvrir à un secteur qui n'a rien à voir avec notre secteur du médico-social, mais la réciproque était vraie aussi. Donc c'est un projet qui a été enrichissant et qui est encore enrichissant pour les deux secteurs en matière de découverte et d'ouverture sur de nouveaux secteurs, secteur de l'industrie, mais au sens ingénierie.
Et donc, est-ce que c'est un peu une première en France, voire au-delà de la France, ce genre de recherche entre établissements du médico-social et puis IA, ingénieurs?
L'école des mines avait déjà un partenariat avec l'association Claude Uni de l'EFSS.
Hein. Oui, nous on avait, depuis très longtemps, l'habitude de recevoir des équipes en mission de l'école des mines d'Alès, mais c'était vrai, et on continue à le faire, mais c'était plus lié à nos établissements de production aux ESAT, les anciens CAT, pour remettre dans le contexte. Et donc on a eu l'habitude d'avoir ces liens avec l'école des mines. Là, c'est quand même le lien entre le médico-social et l'école des mines, et particulièrement l'école des mines, en tout cas. Nous, au niveau de la 2LFS, on a une certaine habitude, puis ça fait au moins plus de 10 ans qu'on en reçoit très, très régulièrement. Par contre, là où c'est très innovant, là, c'est d'aller chercher au sein de l'école des mines, non seulement les étudiants, en première, deuxième ou troisième année, peu importe, mais qui, eux, vont faire le lien aussi avec les laboratoires, voire les start-up qui incubent au sein de l'école des mines à l'aise. Donc là, on passe un palier supplémentaire dans ce partenariat. Donc là aussi, de ce côté-là, c'est très intéressant.
Et les Côtes des Mines, ça, je crois qu'ils ont envie, enfin, ils sont très innovants eux-mêmes aussi et ils sont à la recherche de ça. À l'heure actuelle, là, côté A2LFS, on reçoit trois étudiantes encore de l'École des Mines pour essayer de voir au sein de nos établissements pour enfants comment, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait inventer, qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui et qui pourrait, quels sont les besoins, qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer demain. Et elles ont, voilà, on leur offre tous les possibles, c'est-à-dire elles peuvent vraiment s'ouvrir à tout et penser à tout et proposer, voilà, ne pas se bloquer et aller dans le sens et où elles veulent. Et juste quand j'ai présenté du coup notre projet à l'amphithéâtre de jeunes, je suis passée après trois entreprises, dont une qui avait un problème de productivité sur sa ligne de production, l'autre qui avait un problème de fibre optique et qui voulait résoudre je ne sais pas trop quoi, un troisième qui avait des problèmes d'enracinement technique dans le BTP, je ne sais pas quoi. Et moi, j'attendais après, je me dis, alors quand moi je vais présenter en tant qu'A2LFS mon problème de handicap, enfin mon association dans le handicap, je dis, mais je suis hors sujet complètement. Là, que fais-je là? et en fait, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont été intéressés, en fait, parce que je crois que eux aussi ont envie de s'ouvrir à autre chose et eux aussi sont en capacité de voir que toute cette technicité peut servir à autre chose que qu'à l'industrie, au bâtiment, au BTP. Donc, c'était vachement intéressant. Alors, j'avais l'impression d'être un ovni. Et en fait, je me suis aperçue qu'ils étaient vraiment aussi en recherche de ça. Donc, ce sont des écoles qui sont aussi elles-mêmes dans l'innovation. Et c'est ce qui est vachement, vachement intéressant.
Oui, c'est ça. C'était, pour le coup, il y avait entre guillemets de l'humain au milieu de ce projet, c'est ça qui a dû plaire aussi.
Voilà, c'est ça. Et c'est inattendu. C'est-à-dire que des lignes, améliorer des lignes de production, je pense que c'est des sujets qui doivent être récurrents, la fibre optique aussi. Et paf, la 2LFS, le handicap, les jeûnés, ça avait été, c'est beaucoup plus rare. Et donc, du coup, finalement, moi qui me faisais toute petite, on a eu pas mal de succès parce qu'on propose aussi autre chose et on permet aussi d'être prospectif, de se projeter, d'être innovant. Et je pense que ça peut être, c'est un atout aussi. Voilà.
Bernard, c'est ce qui vous plaît aussi. Peut-être que vous avez eu cette carrière d'ingénieur, mais justement, là, une réorientation dans un monde plutôt social avec de l'humain. Justement, typiquement, ce projet-là, ça vous parle de justement, il y a un profil technique, mais derrière, là, on va vers l'humain avec ça.
Oui, absolument. En fait, les écoles d'ingénieurs, enfin, le médico-social est très peu connu dans les écoles d'ingénieurs. Donc, effectivement, là, c'est une perche tendue. Madame Breuil a suscité ces écoles-là et puis ça a suscité un engouement derrière. Hein. Donc moi c'est pareil, j'ai découvert le médico-social il y a 2 ans, hein, fin 2023, et j'ai voulu toucher du doigt ce métier donc en tant qu'accompagnant éducatif et social. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas continuer et puis apporter autre chose à la société. Et donc ce projet-là m'a permis d'apporter mes compétences en tant qu'ingénieur et puis surtout en tant que gestionnaire de projet. Voilà. Apporter de la rigueur dans la gestion de projet, apporter des lignes de conduite, une vision. C'est des rôles qui sont importants lorsqu'on mène un projet. Et c'est pour ça que je disais ce projet va être mené par une main de professionnels et par des professionnels, puisque ce sont les professionnels eux-mêmes qui vont s'approprier ce projet et puis le développer, quoi. Voilà.
Et justement, est-ce que vous qui êtes en contact avec ces jeunes ingénieurs, futurs ingénieurs, vous ressentez peut-être que la nouvelle génération veut toujours faire des choses très précises, ingénieurs, ils ont un profil mathématique, mais avec peut-être justement une envie de faire différemment, plus éthique, plus solidaire, avec peut-être quelque chose qui les reconnecte à leurs valeurs.
La question du sens aujourd'hui prend beaucoup de place dans la réflexion des jeunes et de la nouvelle génération. Et pas que nouvelle génération. C'est une place nouvelle dans la société, dans la relation au travail. Pour preuve, avec Bernard Rodier, effectivement, qui est en reconversion professionnelle. Et c'est vrai, je pense que si on met ce projet 10 ans en arrière, rentrer en contact avec l'école des mines pour proposer à des étudiants de venir en stage dans un établissement médico-social qui accompagne des enfants en situation de handicap, je ne suis pas certaine que 10 ans en arrière, la direction de l'école des mines aurait répondu favorablement ou aurait été intéressée par un tel projet. Aujourd'hui, on a capté l'attention et de l'équipe de direction de l'école des mines et des étudiants à l'occasion de la présentation des sujets qu'on propose pour accueillir des stagiaires. Et l'expérience que Anne a vécue en présentant le projet de la
j'ai connu il y a
même expérience. Et quand on va jusqu'au bout du processus, quand on participe au jury d'examen des soutenances des projets des étudiants, mais là, c'est pareil. On voit effectivement des projets scientifiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a proposé, nous, aux étudiants. Et on s'est posé la même question avec ma collègue Marion Soulier quand on était présente au jury. On s'est dit, mais quand ça va être nos étudiants qui vont présenter leur projet, mais ça va faire flop, enfin ils seront complètement à côté, et en fait pas du tout. On a été beaucoup interpellés après par d'autres étudiants qui venaient présenter leur projet. Parce que oui, je pense que ça interpelle et ça interroge tout le monde. Oser mettre de l'intelligence artificielle, de l'IA ou de la technologie dans les méthodes d'accompagnement et les modalités d'accompagnement de personnes en situation de handicap, oui, c'est quelque chose de nouveau qui éveille les curiosités et qui intéresse, hein, parce que ça apporte une aide.
Je crois que les ingénieurs sont sûrement une appétence plus grande à utiliser leurs connaissances techniques au service de notre secteur que les professionnels de notre secteur à accueillir ces nouvelles technologies. Je pense que là, il y a une acculturation à faire, mais oui, plutôt de notre côté, vers ce côté technologique.
Il y a un accompagnement à faire, effectivement,
parce une co-construction à faire. La réaction habituelle, c'est « nous, c'est l'humain, qu'est-ce que vous venez faire ?» Voilà. Donc, je pense que, comme toujours, ça va évoluer sûrement vite, mais Anne parlait là des étudiants qu'on a, nous, en ce moment, mais précédemment aussi, quand on discute avec eux, ce qui les intéresse en premier lieu, c'est on ne connaît pas ce secteur, on a envie de découvrir. D'abord, ils sont ingénieurs, donc je veux dire, ils sont la technologie, mais ils sont jeunes, ils ont envie de découvrir des choses. Donc notre secteur les intéresse. Et du coup, ils ont, eux, cette souplesse d'esprit, je dirais, de dire, ben voilà, OK, on va mettre nos connaissances techniques au service de quelque chose qui nous plaît ou qui pense qu'on va donner du sens.
Voilà, c'est ça.
Et c'est plus compliqué. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais il faut préparer, parce que dans nos équipes, on a tout de suite première réaction, pop, qu'est-ce que c'est cette histoire? Pas mal de réticences qu'il faut faire un peu sauter, mais ça se fait aussi. Mais on n'est pas au même niveau d'innovation, on va dire, ou de capacité à l'accepter, cette innovation.
Je pense que nos établissements et les salariés qui travaillent dans nos établissements, toutes catégories confondues, sont aussi le reflet de la réaction de la société face à ces technologies. Si on fait un sondage dans la rue autour de la question de l'IA dans la vie quotidienne ou dans l'environnement professionnel, je pense qu'on retrouvera les mêmes réactions. Et on n'est pas français pour rien.
On a bien présenté ce projet, futur projet en tout cas, et on reviendra à la fin de l'émission sur comment on peut vous aider pour un jour voir ce projet se réaliser, ce projet très inédit ici en Lozère. Je vais revenir quand même sur Andy Bloom, parce que j'ai l'impression qu'avec une fondation, il y a une volonté, donc une recherche de mécénat, mais aussi vous d'un mécénat local, inclure les Lozériens dans le processus de financement, c'était quelque chose d'important pour vous
Tout à fait. L'idée, ça a été des fondations, on est sollicité par beaucoup de structures pour des tas de causes qui ont leur justification, c'est pas ça la question. Mais donc nous, on s'est dit à un moment donné, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, pour montrer ce dynamisme, et que la 2LFS, malgré ses 100 ans, plutôt de regarder derrière, regarde devant, et ça nous a semblé, la fondation, un véhicule intéressant de ce côté-là. Donc ça, c'était le premier point. Une fois qu'on a dit ça, nous, ce qu'on a souhaité, c'est aussi s'ancrer sur notre territoire. la 2LFS, c'est une association lozérienne, et donc l'idée c'était de jouer sur cet ancrage sur le territoire. Alors, la Lozère prioritairement, mais on va dire plus largement le Massif central, on va dire. Donc de jouer sur ce côté territoire. Et donc nous, l'idée, c'est bien de... Alors, je trouve un peu cette formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais du circuit court du don. C'est-à-dire qu'on veut essayer de créer, en disant aux gens, aux Lozériens, vous allez donner à une structure locale qui va faire des choses que vous allez voir devant votre porte. Donc d'où cette idée de circuit court. Et vous allez voir concrètement, dans des délais plus ou moins rapides suivant l'ambition du sujet porté, mais voilà, d'être vraiment sur ce cœur-là et de se dire, voilà, on est... Alors, c'est pas pour rester l'entre-soi, mais à un moment donné, voilà, de nous différencier en disant, voilà, c'est du local au service d'eux, et en se disant aussi, quand même, dans ce territoire, il y a une longue histoire d'accueil du médico-social et que l'ensemble de la population, qu'elle travaille directement ou pas dans notre secteur, on sait qu'elle est sensible à cette donnée, et elle est aussi très sensible au territoire, parce que quand on habite en Lozère, qu'on en soit originaire ou qu'on soit une pièce rapportée, très rapidement, on est attaché à ce territoire. Donc voilà, on veut jouer sur cette donnée-là.
Et puis ça me fait penser aussi, quand on s'était vu à Montrodat pour le salon, le grand salon du handicap.
Le salon résolution qu'on a fait justement dans le cadre des centaines de la 2LFS.
Et il y avait eu ce professeur d'université de Lyon qui était venu.
Oui, Charles Gardou.
Qui effectivement disait bien que la Lozère était un espèce d'exemple. Vous avez repris d'ailleurs son mot un peu de laboratoire d'inclusion. Donc l'idée c'est de se dire... on ne fait pas seulement quelque chose pour les personnes, enfin tout le monde est engagé pour la même cause. C'est un peu ça aussi le fait qu'on va mettre des billes dans la fondation.
Bien sûr, alors après, l'idée c'est pas de dire, enfin, d'être renfermé sur soi, mais par exemple, le projet dont on parle d'utilisation de l'IA, si, enfin on ne va pas dire si, quand il va aboutir, ben, évidemment, il est duplicable. Donc je veux dire, l'idée c'est, ok, on veut financer, on part de structures en Lozère. Mais l'idée, c'est des bonnes idées, une fois qu'elles sont validées, bah, qu'elles puissent essaimer ailleurs. Donc on met l'accent sur ce côté local, mais pas le local au sens renfermé. C'est pas du tout l'entre-soi renfermé, pas du tout. Mais moi, je suis convaincu qu'effectivement, l'ensemble des Lozériens ont envie qu'il y ait des choses innovantes, et qu'aussi qu'on parle de notre département, au-delà de l'image un peu folklorique, voilà, le département le moins peuplé de France, le
avec
plus petit,
le plus
ceci,
voilà,
mais un peu la réserve indienne, vous voyez. Hein. Donc, le côté, c'est pas du tout ça. Et puis après, dans notre secteur, comme dit Sylvie aussi, et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cette impérieuse nécessité d'être innovant. C'est-à-dire que dans notre secteur, il se trouve que historiquement, on se retrouve du coup aujourd'hui avec un taux d'équipement qui a rien à voir avec l'ensemble de la France. Mais lors d'une manifestation qu'on a fait toujours dans le cadre de nos 100 ans là, sur la loi 75, Monsieur Jaffe, qui est le directeur général de l'ARS, a dit « Mais attendez, il faut arrêter de stigmatiser la Lozère. Il faut plutôt dire il faudrait que l'ensemble du territoire français soit équipé comme est équipée la Lozère. » Mais on n'a jamais mis... On reproche pas à la vallée du plastique à Oyonnax d'être innovant là-dessus et d'avoir beaucoup d'emplois dans le plastique. Et bien, pourquoi on irait nous reprocher d'avoir des emplois au service des personnes vivant avec un handicap? Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut utiliser l'accumulation d'expérience que ce territoire a pu avoir dans ce domaine. Et donc la fondation Andy Bloom est un élément parmi d'autres, mais c'est un élément, me semble-t-il, fondateur et important pour donner cette dynamique.
Et concrètement, donc, quel est votre... Bon, c'est un mot un peu qu'on dirait pour une entreprise, mais quelle est votre cible? Vous cherchez des mécénats, ça peut être des partenaires privés, publics, des particuliers, des professionnels?
Tout à fait. Alors, nous, on est à la recherche de partenaires des deux côtés. Alors, vous avez bien compris que le nerf de la guerre, c'est... Il y a plein d'idées possibles, mais encore faut-il qu'on ait de l'argent pour le faire. Donc, d'un côté, un appel aux dons. Alors, tant les entreprises que des particuliers, avec tous les avantages fiscaux qui sont liés
Pour le rappeler peut-être, parce que tout le monde, des fois, on oublie.
Pour un particulier, alors, dans la mesure où il est imposable à l'impôt sur le revenu, c'est 66% du don qui vient diminuer le montant de son impôt, pas le revenu imposable, mais le montant de l'impôt à payer. Et pour les entreprises, idem, 66% ou parfois un peu plus, mais enfin grosso modo 66% aussi de déduction fiscale. Donc il y a vraiment une incitation étatique pour donner un intérêt financier au-delà de l'intérêt utilitaire que la personne morale ou la personne physique peut avoir. Ça, c'est sur le côté argent à rentrer. Après, une fois qu'on a cet argent, nous, notre vocation, c'est de sortir cet argent pour des projets. Et là, l'idée, c'est qu'effectivement, n'importe qui, structure publique, entreprise, association, commune, qui aurait des projets, peut faire en sorte de dire, ben voilà, moi j'ai telle idée, est-ce que c'est finançable ? La seule contrainte, il faut que ce soit au service des enfants et de leurs familles vivant avec un handicap et ou une maladie. Mais du coup, effectivement, et ça peut être des choses très très simples et qui sont du pratico-pratique jusqu'à ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur des projets plus novateurs, plus ambitieux d'un point de vue technologique. Mais l'intérêt, c'est que ça permette à ces enfants d'améliorer leurs conditions de vie ou leur chance de pratiquer du sport, d'avoir un accès aux études, d'avoir une capacité à être plus mobile et encore beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Mais est-ce que vous l'avez dit au début, on peut le rappeler, en fait, pourquoi avoir créé Andy Bloom, c'est que l'argent public, comme vous dites, vous êtes une... Et là, plutôt pour les... Je caricature, et peut-être je dis des bêtises, mais pour le frais de fonctionnement, mais un peu comme une entreprise, là, ça va vous apporter un peu la branche recherche et développement, quoi.
C'est tout à fait.
Pour ne pas rater la révolution technologique à venir.
Mais l'image est bonne. Ça, en fait, c'est un peu pour pouvoir financer du plus. Voilà. On ne peut pas tout demander à l'État, au département.
Encore plus en ce moment, peut-être aussi, ça peut jouer.
Oui, mais même avant, enfin, peu importe. Mmh. À un moment donné, il faut se dire aussi, voilà, il y a des financements qui sont fléchés, puisqu'on a cette délégation de services publics, hein, en fait. Mais à côté de ça, il y a des choses où c'est pas effectivement à la collectivité de payer. Là, on fait plutôt appel à d'autres sources de financement, mais dans le même objectif.
Eh bien, je vois que ça fait déjà presque une heure qu'on discute, qu'on va doucement et gentiment aller sur la conclusion. Bah, peut-être justement pour Andy Bloom, qui est né il y a à peine quelques mois, quelques semaines, ça en est où ? Vous avez reçu, vous commencez à recevoir vos premiers dons, et puis voilà, c'est quoi un peu la suite à venir à court ou moyen terme pour la Fondation ?
Alors effectivement, on commence à avoir quelques dons. Alors on a fait quelques opérations, notamment une opération sur Mende la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui était aussi... Alors, il y avait une vocation de récolter un peu d'argent, donc ce qui a été le cas, mais surtout de faire connaître cette fondation. Et c'est vrai que là, on a reçu... c'est l'Hyper-U de Mende qui nous a permis de faire cette opération dans ces locaux. Et du coup, on a pu toucher un nombre important de Lozériens qui venaient faire leurs courses. Et effectivement, alors, d'une part, on a pu constater d'abord l'accueil vraiment bienveillant, on va dire, et chaleureux, qui a pu être fait. Donc ça, on n'en doutait pas, mais au moins on a la preuve que ça reçoit un accueil plutôt, plutôt positif. Et quand on explique ce qu'on vient de se dire là depuis presque une heure, les gens, il y a un vrai intérêt. Donc là, maintenant, toute la difficulté, on a envoyé un mailing à toutes les entreprises ayant plus de 10 salariés sur le département de la Lozère, en espérant qu'il y aura un retour. Alors là, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, mais voilà. Nous, on met en place, on a fait une petite campagne publicitaire dans la presse locale pour commencer à faire connaître à la fois le logo, le nom de Andy Bloom, avec ce côté Andy, donc qui dit bien ce qu'il veut dire. On comprend que c'est autour du handicap. Et Bloom, qui est un anglicisme, qui n'est pas une coquetterie de notre part, mais Bloom en anglais, c'est l'épanouissement. Et donc l'idée, c'est de dire Andy Bloom, c'est la contraction pour donner cette idée de permettre à ses enfants de pouvoir s'épanouir dans leur future vie d'adulte. Et donc, si on peut contribuer à un moment donné dans leur croissance, on dirait vers l'âge adulte, de leur permettre d'avoir accès à des choses plus facilement, plus vite, ben on aura, je pense, répondu aux objectifs que nous nous sommes donnés.
Et peut-être une question qui sera peut-être la dernière, justement, comment vous aider, où on vous retrouve, si là, un auditeur ou une auditrice nous écoute et veut même mettre 10, 15, 20, 100 euros, voilà.
Mais on a un site internet qui s'appelle Andy Bloom, quelle originalité, hein. Et donc, on peut aller directement sur ce site ou sur le site de la 2LFS, où il y a aussi la possibilité d'avoir une orientation sur le site de la Fondation, où là, on peut donner, alors, de façon dématérialisée, mais ensuite, vous pouvez aussi, tout en allant sur ces sites-là, avoir l'adresse et pouvoir donner par chèque si on le souhaite.
Et bien sûr, vous pouvez suivre toutes nos actualités sur les réseaux, que ce soit Insta, Link ou Facebook, bien sûr. Voilà.
Et puis pour vous, l'association Les Jeunets, pareil, même question, comment on peut vous aider si on vous écoute, vous parlez tout à l'heure d'un appel un peu aussi à des partenaires, toujours en recherche de partenariats et de financement.
Mais déjà, ce genre d'émission, c'est une précieuse aide. Elle permet de parler et de valoriser une activité qui est celle du handicap et l'accompagnement des enfants en situation de handicap en Lozère, de parler d'une association qui a plus de 60 ans, qui a besoin d'être attractive vis-à-vis des professionnels, parce que ce projet, il a du sens hein, si derrière, on a des professionnels engagés. Hein, et voilà, parler de cette association et de ce projet, c'est aussi être attractif pour recruter de nouveaux professionnels. Nous aider, ça peut se faire aussi directement, que ce soit des particuliers ou des entreprises peuvent nous faire des dons. Notre association est éligible aux dons, donc le don peut arriver aussi directement au niveau de l'association sur la base de la présentation de ce projet notamment.
Message bien reçu. Anne, j'ai oublié quelque chose, un mot pour conclure ?
Ben non, ben je crois que là on lance quelque chose de très innovant pour la Lozère et qui a vraiment tout intérêt à être promu. Donc j'espère que cette émission se fera l'écho de ce beau projet et que ça portera, voilà, que ça portera bien ses fruits. Voilà.
Eh bien, merci d'avoir écouté Hashtag, l'émission en partenariat avec le Clos du Nid sur 48FM qui parle avec et pour les personnes en situation de handicap. Merci à nos intervenants et intervenantes du jour d'avoir accepté notre invitation. Vincent Bardou, Sylvie Breuil, je vais y arriver, Aline Morin et Bernard Rodier. Merci à vous quatre. Merci à Anne d'être venue et merci à vous. Et vous pouvez retrouver l'émission, bien sûr, en replay sur 48fm.org. Et bonne écoute sur 48fm.
Hashtag. Un autre regard sur le handicap.